Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 30 janvier 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, il fait pas chaud, hein?
Non, il fait pas chaud. Il fait pas beau. Même si l'hiver est beau. Maintenant, moi, il y a des nouvelles qui m'ont sidéré cette semaine. On va revenir sur un programme dont le gouvernement fédéral a l'intention de mettre en place un peu plus tard. D'abord, peut-être une nouvelle d'importance pour la Tesla Model S qui subit une première véritable refonte après 9 ans de commercialisation, là.
Effectivement, et on a parlé il y a quelques semaines qu'on avait vu le volant du Bolt EUV et on était franchement un peu déçus de simplement avoir vu ça. Mais cette semaine, le volant de la Tesla Model S, qu'on pourrait qualifier de rafraîchi ou de mise à jour, ben son volant a fait énormément jaser parce que ben on dirait celui d'une console de jeux vidéo. Là.
En fait, moi, ça me rappelle volant de K2000.
Oui, à peu près. Donc, je ne sais pas si on va lui mettre des lumières rouges qui clignotent dans la grille en avant. Je ne sais pas. Mais comme il n'y a pas de grille, ça va être un peu plus difficile. Donc, plusieurs mises à jour. On a vraiment épuré l'intérieur. Le volant, c'est vraiment ce qui a fait le plus jaser. On a une version aussi qu'on a ajoutée, là, une version Plaid Plus. Et là, tiens-toi bien, l'autonomie est de 830 km. Autrement dit, tu peux partir de Montréal, rouler jusqu'à Fredericton sans aucun problème, sans jamais arrêter, en théorie.
Tu peux aller à New York, tu peux aller à... Ouais. Tu peux aller
bien plus loin que
bien
Toronto.
Plus loin que Toronto, absolument. Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc, c'est assez fascinant.
Et la version de performance, on parle d'un 0 à 100 km/h en 1,9 secondes.
Oui, à un moment donné, on pourra plus
ça
en enlever.
Ça va être instantané.
Oui, c'est ça.
Ça va être de la téléportation.
Voilà.
Donc, ça, c'est hallucinant comme niveau de puissance. Je pense que c'est une réponse de Tesla à la Porsche...
Oui, parce qu'on a vu qu'on avait perdu un peu de rayonnement en raison de cette Taycan-là. Peut-être un certain nombre d'acheteurs aussi qui ont considéré la Taycan, alors qu'auparavant, ben, tu n'avais pas d'autre choix que la Model S, si tu voulais une berline de luxe électrique.
Donc, c'est intéressant parce que quand tu regardes la carrière de la Model S, mm-hmm. il y a eu je ne sais pas combien de déclinaisons de la 60, 60D, ouais. 75, 85, 90, 100D, P100D, les versions de performance. Là, on a un modèle qui s'appelle Long Range ou Long Range Performance. Puis là, on arrive avec les versions Plaid. C'est hallucinant, là, la quantité de versions, de variations qu'on a eues. Puis on se souvient, au début, là, c'était que des voitures propulsées. Aujourd'hui...
On s'est adapté.
On s'est adapté à ça. Mais bref, la Model S est encore dans le paysage et dans le paysage pour rester. On ne l'a pas redessiné au complet. C'est un rafraîchissement esthétique. Avec un habitacle qui a été retravaillé,
oui,
et un volant qui est un peu choquant, si tu veux mon avis.
Ben j'ai hâte de voir ça en guillemets dans la vraie vie parce que là c'est simplement des photos sur internet.
Oh, ouais, c'est ça. Mais moi je me vois mal utiliser un volant dessiné comme celui-là.
Pour te stationner en parallèle, je sais pas. J'ai comme un doute.
Je suis déjà pas fan du volant angulaire qu'on a mis dans la Corvette cette année.
Mm-hmm.
Alors pour ça, c'est une autre histoire. Mais enfin bref. Mini aussi qui a décidé de dévoiler une gamme rafraîchie. Là aussi, c'est pas un remodelage complet, mais une gamme rafraîchie. Puis c'est génial parce que Mini fête cette année son 20e anniversaire depuis la relance, en fait, de la marque en cours d'année 2001.
Et avec un modèle, on a réussi à créer une marque entière, là, finalement. Donc,
D'une part, oui. Et de perdurer dans le temps.
Oui, on a eu des essais et des erreurs, là. Tiens, on peut penser à la coupé ou même à la Paceman qui n'a pas été géniale.
Je considère même pas ça comme
c'était
des
essais, ça n'a pas levé, mais il y a des classiques qui demeurent. Bon, la Mini 3 portes, elle demeure. Le cabriolet, je ne lui vois pas un très grand avenir parce que ben, les voitures cabriolet sont moins populaires que jamais. Mais tu as des versions comme la Countryman, par exemple, qui est une belle version d'une Mini moderne, finalement, qui correspond aux besoins de plus de gens qu'une petite voiture trois portes, là, parce qu'on s'entend.
Le cabriolet, moi, je pense que le cabriolet a quand même un avenir parce qu'il n'y en a plus des voitures comme ça.
Non, mais sa production est très chère.
Oui, c'est ça. Alors, tu sais, c'est sûr que ça devient un objet de luxe à ce moment-là, mais il en demeure pas moins que la marque a su perdurer et elle était arrivée sur le marché dans une ère où le rétro était à la mode.
Ouais. Thunderbird, New Beetle, PT Cruiser, tout n'a pas très bien vieilli dans ce lot-là.
Chevrolet SSR, tout ça. Là. Alors,
Plymouth Prowler.
Oui, la Prowler, qui en est une aussi. Alors, mais Mini a su perdurer et a su garder une image qui est propre et qui passe très bien l'épreuve du temps. Alors, ça va être intéressant de voir ces modifications qui ont été faites. On n'a pas parlé nécessairement de modifications au niveau technique.
Non, ça va rester sensiblement la même chose. La grande nouvelle, finalement, c'est son toit, hein, qui va avoir un toit là en dégradé, si on peut dire. Donc, un peu de bleu pâle, de bleu foncé, de noir. Ça rappelle certaines peintures douteuses du début des années 2000 qui changeaient de couleur selon l'angle avec lequel tu le regardais ou les rayons du soleil. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça va donner. Mais comme Mini a toujours été un peu... a toujours fait preuve de créativité avec les toits, avec des toits damier, des toits blancs, des toits de couleur. Ben, je pense que c'est...
Ben, des preuves de créativité, point.
Oui.
Est-ce qu'on a une mention pour 2022 sur la version électrique? J'ai peut-être pas vu passer ça.
Si j'ai bien compris, elle va subir les mêmes améliorations
esthétiques. Mais en conservant la même autonomie.
Absolument.
Bon, OK, parfait. Maintenant, on va parler de ce damné programme-là. Ouais. Je suis contre cette idée-là, mais complètement.
Grosso modo, c'est la corporation des associations de détaillants d'automobiles qui a soumis une suggestion au gouvernement canadien de reprendre un principe qui avait été appliqué aux États-Unis en 2009. Donc, c'était qu'on appelait en bon français le cash for clunkers.
Mais on avait vu ça ici aussi, là.
Oui, mais à moins grande mesure, là, quand même. Et l'idée était de donner une somme X, une somme alléchante en échange d'une minoune, là. Donc,
l'idée est de promouvoir la mise à la case de voitures âgées de plus de 12 ans pour stimuler l'achat de véhicules neufs et conséquemment stimuler le roulement des usines automobiles canadiennes.
Donc là, on revient avec une... On propose de revenir avec une formule comme ça. Donc oui, l'idée est de stimuler la production automobile et la vente d'automobiles neuves, mais...
On le fait sous
l'excuse de l'environnement, mais toi et moi, on en doute très fort.
En ce qui me concerne, si tu me permets d'utiliser le mot, c'est de la vraie bullshit.
Oui.
Parce que on s'entend que là, on ne dévoile que les possibles émissions polluantes des moteurs thermiques qu'on économiserait en faisant ça. Le problème, c'est que fabriquer une voiture neuve, il y a un impact environnemental.
Absolument.
Qui est encore plus grand si c'est une voiture électrique et qu'il faut amoindrir.
Et là, on fait quoi avec une voiture qui est encore bonne? Parce que, on va encaisser le chèque. Cette voiture-là va être mise au rencard. On va l'empiler dans un terrain vague, puis on va attendre qu'elle se décompose. On va recycler ce qu'on peut recycler.
On va recycler la voiture, on va l'envoyer dans des entreprises de recyclage. Peu importe. Moi, je veux dire, tu ne me convaincras pas...
Jamais.
Tu ne me convaincras pas que de fabriquer une nouvelle voiture et de la mettre sur la route, c'est plus propre que de prolonger la vie d'une voiture qui a déjà eu son impact environnemental. Ça, c'est sûr. Donner une subvention pour stimuler l'entretien des véhicules, pour remettre ces véhicules-là en condition qu'ils puissent perdurer dans le temps. Maintenant, je comprends l'objectif de la CADA. On veut mousser les ventes parce que ça fait 3 ans d'affilée que les ventes au Canada sont en baisse.
Mais soyons transparents, mettons pas ça sur le dos de l'environnement.
Ça marche pas. C'est dur
à avaler. Puis si on se met dans la peau d'un consommateur qui a une voiture de 12 ans, 13 ans, 15 ans, peu importe, et qu'on lui remettrait 3 000 $ parce que c'est ce qui est proposé jusqu'à 3 000 $, c'est ce qui est avancé dans le programme soumis, ça peut être alléchant, là. Si on a, par exemple, une vieille Mazda protégée qui est en fin de vie.
Protégée, ça a plus que 12 ans en passant, ça a plus 18 ans.
Oui, oui, oui. mais ça pourrait s'appliquer. Là.
Mais ouais. Elles se sont déjà décomposées.
Décomposées.
C'est un mauvais exemple. Assume-le.
Mais si on encaissait 3 000 $ en échange de cette vieille poubelle, ça peut être intéressant pour le consommateur. Là.
Oh oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais je pense que c'est un programme. Bon, on a prouvé aux États-Unis que ça n'avait pas fonctionné, que c'est un programme qui n'avait pas de logique. Et on avait mis ça en place aux États-Unis, on se souvient, suite à la crise de l'automobile, à la faillite de GM et de Chrysler, pour stimuler les ventes de véhicules neufs, encore une fois. Mais on avait vu des aberrations, des histoires épouvantables de gens qui avaient envoyé de superbes BMW à la casse parce qu'on leur offrait un montant super alléchant pour leur voiture et parce que le concessionnaire de connivence avec le programme ajoutait à ça un gros, gros rabais pour vendre des véhicules neufs alors qu'on n'était pas capable d'en vendre à cette époque-là puis que les compagnies faisaient pitié. Alors, tu sais, pour moi, là, c'est un non-sens. Ce n'est pas un geste environnemental, c'est un geste stratégique de la part de l'industrie de l'automobile canadienne. Et je trouve qu'on se tire un peu dans le pied en faisant un truc comme ça. Alors, pour moi, ça a aucun sens. Et coudonc, est-ce que le gouvernement Trudeau en serait à une première frasque si on approuve cette affaire-là?
Qui sait?
J'arrête ça.
On va suivre le budget fédéral avec attention.
Attention, exact.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Essai routier de la semaine, Antoine, tu as conduit la Mini Countryman.
Oui, j'ai redécouvert ce véhicule-là qui est en fait qui utilise les bases de la BMW X1, mais qui est beaucoup plus amusante que la BMW X1, si tu veux mon avis. Il y a une personnalité dans cette
Absolument.
Voiture-là. Je me suis rendu compte pour m'être retrouvé dans un stationnement qui n'avait pas été déneigé que la garde au sol est beaucoup moins haute que ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors ça m'a peut-être un peu déçu. Ne pensez pas que vous avez le dégagement d'une Subaru Crosstrek avec ça. Ce n'est pas le cas. Mais au niveau du comportement, c'est rapide, c'est vif, c'est amusant, c'est dynamique. Ça pousse à l'excès de vitesse, honnêtement. Tu te rends pas compte à quel point, des fois, tu dépasses largement les limites permises.
Oups!
C'est surprenant. Et c'est pas. Et j'ai pas conduit la version la plus performante. En fait, c'est une version S, donc avec un moteur de 189 chevaux. Une machine qui est super équilibrée. C'est pas donné. Là, on avoisine les 44 000-45 000 $. Mais vraiment un véhicule que je trouve encore pertinent et amusant et qui a gagné beaucoup en fiabilité. Les sièges, c'est assez ferme, c'est assez sportif. Vous achetez pas ça si vous voulez avoir un confort suprême. Là.
Mm-hmm.
Si vous êtes du type à cibler, par exemple, un Lexus NX, vous n'aimerez pas un Mini Countryman. C'est
certain. Plus ferme, là.
C'est beaucoup plus ferme. C'est plus bruyant aussi, mais il y a vraiment un côté extrêmement charmant à ce véhicule-là. Et force est d'admettre que la fiabilité de la Countryman et des Mini en général s'est beaucoup améliorée au fil des années, si bien qu'aujourd'hui, on est capable de recommander l'achat de ce véhicule-là, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 5 ou 6 ans. Là. Alors, moi, j'ai bien aimé, ouais.
Bon, ben de mon côté, j'ai conduit la Mazda 3. J'ai eu la chance de conduire les deux versions à moteur turbo, donc autant la berline que la version à ion. Il faut savoir, le moteur turbo, c'est une nouveauté. Le moteur d'entrée de gamme, le 4 cylindres de 2 litres, lui, demeure. Le 4 cylindres de 2,5 litres, lui aussi, demeure. Et la marge entre les deux était intéressante. Quand on prenait, par exemple, une version GS à moteur 2,5, ben on avait un petit peu plus de oomph que dans la version de base. Bon, là, c'est intéressant. Mais là, quand on fait le saut dans une version à moteur turbo, qui est munie en plus de 4 roues motrices, bien, franchement, on se retrouve dans une voiture assez impressionnante. 250 chevaux, là, quand on imagine ça sous le capot d'une compacte, hein, finalement.
Il faut mentionner que c'est 250 chevaux.
Avec de l'essence, c'est ça, à niveau d'octane, là, de
93.
Donc, sinon, on est à 227, ce qui est quand même une puissance raisonnable pour une compacte. Avec les 4 roues motrices, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la conduire là, parce qu'on a eu de la neige dans ces derniers temps.
Ça, on aimerait ça qu'elle soit disponible en manuel, même si le marché est restreint. Mais
ça deviendrait vraiment une voiture exceptionnelle, mais on est conscient que ce serait on les vendrait au compte-gouttes parce que ben, déjà, la Mazda 3, depuis son renouvellement de génération, c'est pas un véhicule qui est très populaire.
C'est incroyable, en fait. 12 000 ouais. unités seulement donc, en 2020.
Oui, donc c'est difficile. Ça doit être difficile à avaler parce que ben, pour Mazda, ça a été pendant longtemps le beurre, l'argent du beurre et tout ce que tu peux imaginer. Oui, et j'ai l'impression que ce qui lui nuit, finalement, à la Mazda 3, c'est son nom. Parce que on associe, bon, pour le consommateur québécois, la Mazda 3 à une compacte beau, bon, pas cher, là, tu sais. Mais ce n'est plus ça, en fait. Tu sais, avec la nouvelle tendance de Mazda d'offrir des véhicules mieux finis, mieux équipés, plus performants,
plus raffinés. Ouais.
Bon, ben, on n'est plus là du tout. Oui, on a encore là, des Mazda 3 de base à 20 000 et des poussières, mais
c'est pas ça qu'on vend.
Ben non, exactement. Donc, peut-être que finalement, de lui avoir donné une image différente, de lui avoir donné un nom différent, ça aurait permis de faire une distanciation, hein, le mot est à la mode, avec la Mazda 3 à laquelle on associe ben, un modèle finalement bourbon pas cher. Donc, j'ai bien hâte de voir quel avenir l'attend, mais une chose est certaine, ça ne lui enlèvera pas ses qualités.
Ça c'est certain.
Et quand je dis qu'elle est chère, là, par exemple, le modèle d'essai, ben, c'était 35 000 $ là, tu sais.
En fait, à peu près 2500 $ de plus pour le moteur turbo sur une version GT que le moteur régulier.
Ouais.
Donc, vous obtenez une surpuissance d'à peu près, ouais. bon, si vous roulez à l'ordinaire, là, d'à peu près 30 chevaux
ouais.
et au-delà de 50 chevaux de différence, si vous optez pour...
Tu sais, ça vaut
fait,
la...
si on parle de
oui, parce qu'on est à 186 chevaux pour le moteur 2.5 régulier, puis ben, 227
donc
250
40 chevaux, c'est
ouais,
ça.
Oui, donc ça vaut la peine, franchement.
Différence considérable.
Ouais.
Puis moi, j'ai pas le choix de faire le parallèle avec par exemple, une Mercedes A250.
Ouais.
Qui va offrir même format,
ouais.
même genre de configuration mécanique, rouage intégral aussi, un équipement et une finition qui est intéressante.
Mais avec un logo qui n'épatera pas ton voisin.
C'est ça, exactement. Fait que, sauf qu'il y a un écart de prix d'au moins ouais. 15 000 $ entre les deux véhicules. T'as, en tout cas, au moins 10 000 $ 12 000 $ entre les ouais. deux véhicules. Et on sait chez Mercedes que tout est une option, alors que chez Mazda, c'est une formule tout inclus. Puis moi, de mon côté...
On compare souvent aussi la Mazda 3 à 4 roues motrices avec l'Impreza, qui est aussi une compacte offerte en berline ou en rayon à 4 roues motrices. Mais les acheteurs de Subaru sont assez captifs, hein, sont assez fidèles ouais. à la marque. Donc, d'essayer d'aller déloger des acheteurs de ce côté-là, ça peut être...
Et de toute façon, l'Impreza est une voiture dont les ventes fléchissent
aussi,
énormément.
Oui.
Les gens se redirigent vers la Crosstrek
beaucoup
plus. Quel est le rival direct de la Crosstrek? Mais c'est le Mazda CX-30.
Effectivement.
Que moi, j'ai pu conduire aussi cette semaine et qui est une version surélevée et retravaillée de la Mazda 3. Je l'ai conduit dans sa nouvelle
tout
version turbo.
Tout aussi peu spacieuse, d'ailleurs.
Oui, exactement, c'est ça. Ah, ben, y a moins de place, je pense, que dans une Mazda 3. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'espace là-dedans. Et ce véhicule-là, bon, c'est le même principe qu'une Mazda 3. Donc,
ouais.
GX, GS, GT, on peut obtenir des versions à roues motrices avant dans la version GX, la version GS. Et sinon, ben, GT, c'est rouage intégral de série. 2400 $ de plus, on obtient le moteur turbo. Et là, ben, quel genre de parallèle je peux faire avec la version qui coûtait 37 000 et des poussières? Ben, une comparaison avec une Mercedes-Benz GLA, par exemple.
Ben oui,
c'est le même principe.
Absolument.
Alors, c'est exactement le même principe. Je pense que ce véhicule-là a des chances de succès. Je me permets de te dire, par contre, que les roues noires,
ouais.
c'est horrible.
Oui, c'est difficile.
On a raffiné le détail de la ouais. carrosserie avec des éléments de chrome à gauche, à droite. Ça y donne une élégance intéressante et on va flanquer des roues noires carrément disgracieuses pour distinguer le fait que ce sont des modèles à moteur turbo. C'est vrai autant sur la 3
ouais.
que sur le CX-30. Ça, pour moi, c'est... si j'avais à acheter une Mazda...
Et avec un pneu qui n'est pas entretenu esthétiquement, qui va tendance à devenir brun avec la poussière. Et le temps d'avoir un mag noir, c'est pas très élégant.
Non, non, non,
c'est pas très élégant.
Ça fonctionne pas. Mais du reste, c'est un véhicule qui est franchement bien impressionnant.
« Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, le bilan des ventes automobiles pour 2020 est sorti. On sait que les ventes ont baissé de presque 20 % Les habitudes des automobilistes ont changé aussi. Il s'est vendu plus de véhicules de luxe, moins de véhicules d'entrée de gamme. Les gens ont déboursé plus cher pour des véhicules en moyenne.
On a manqué de véhicules d'occasion aussi. Donc, ça a été un marché bouleversé en 2020. Ça. Et ça continue de l'être là cette année.
Et évidemment, pour en parler, qui de mieux que des gens du CAA qui cumulent des données à ce niveau-là et qui reçoivent des milliers de commentaires de tous leurs membres à chaque année. Alors, on s'adresse aujourd'hui à Jesse Caron, qui est expert automobile au CAA Québec et qu'on connaît bien.
Oui, parce que son boulot, son travail se rapproche un peu du nôtre, finalement. Là.
Exactement, sauf que lui, il fait du télétravail. Il n'est pas pogné dans un studio 4x6 comme nous autres aujourd'hui. Alors, je te rappelle, Germain, qu'il faut conserver le 2 mètres.
Absolument.
Et c'est presque difficile à faire compte tenu de la grandeur de notre garde-robe, de notre studio, finalement.
Ouais.
Bon, alors, salut, Jesse.
Bienvenue parmi nous.
Salut, messieurs. Toujours, ça part en divertissement.
Exactement.
Donc, comme Antoine le mentionnait en introduction, tu travailles au CAA et tout bêtement, en prévision de l'entrevue avec toi, j'essayais d'expliquer à un ami ce qu'était le CAA et c'est tellement large, c'est tellement vaste que je te laisse finalement expliquer ce que c'est et peut-être revenir sur les origines du CAA en plus de son rôle et sa mission actuelle finalement.
Voici donc le volet historique.
Oui, écoutez, CAA Québec, c'est né ça de la fusion de deux clubs automobiles qui existaient. Il y en avait un à Montréal, puis il y en avait un à Québec. Puis ces deux clubs-là ont fusionné en 1984 pour devenir officiellement l'Automobile et Touring Club du Québec, mieux connu, heureusement, sous le nom de CAA Québec.
C'est un peu plus francophone comme nom.
Oui, effectivement. Donc, ça tire ses origines, effectivement, d'un regroupement d'automobilistes au début du siècle, au début là, de la commercialisation de masse de l'automobile, là, qui avait besoin, justement, de ressources pour utiliser la voiture comme outil, justement, de tourisme. On sent un peu le gentilhomme, un peu derrière tout ça, là, le gentleman conducteur ou chauffeur du dimanche, là. Mais évidemment, ça a évolué de mille façons depuis. Fusionné en 1984, et donc CAA Québec, c'est l'assistance routière, les gens le savent, ça c'est sûr que c'est le fer de lance, mais ça a évolué dans plein de directions. Oui, la mobilité, puis notez que j'emploie ici le mot mobilité et non automobile, donc la mobilité demeure le cœur de ce que CAA Québec fait, mais il y a des volets habitation, il y a des volets assurance, il y a le volet voyage qui est un peu, évidemment, à la lumière des événements actuels, endormi ces temps-ci. On est là pour nos membres et les gens qui ont acheté des trucs, des voyages chez nous pour les servir, mais c'est sûr qu'on n'encourage pas la vente de voyages à l'international pour l'instant, mais c'est un volet qui est là pour rester et qui va reprendre aussi du poids de la bête en même temps que les conditions vont le permettre. Donc, CAA Québec, c'est des services conseils automobiles aussi. C'est un programme de fidélité, on va le dire, avec la carte qui permet aux gens d'accumuler des dollars CAA au gré de leurs achats, puis des services qu'ils vont utiliser, par exemple, dans nos garages recommandés. Fait que, c'est une organisation qui a un but non lucratif. Donc, l'argent qu'on fait à CAA Québec, c'est réinvesti dans CAA pour servir les membres puis augmenter l'offre de services. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de lien avec le gouvernement d'aucune façon. Donc, c'est vraiment une association qui vit par ses membres en grande partie et pour ses membres aussi.
Est-ce que c'est A, déjà pensé de t'engager comme représentant, porte-parole de, parce que tu fais bien ça?
Ça sera une bonne idée.
Mais moi, je me permets de dire que je suis membre du CA depuis très longtemps. Ouais. Je renouvelle ma carte sans même le savoir à chaque année parce que la carte se pète toute seule dans la mesure où, bon, cette année, ce sera peut-être pas le cas, mais d'ordinaire, juste avec les sous que j'économise en stationnement à l'aéroport avec ça, ma carte, elle n'est pas amortie, elle est payante. Fait qu'il y a toutes sortes de façon de...
Ben, dans mon cas, en possédant là, des vieilles bagnoles, d'avoir une carte CA, c'est un peu... je me pose même pas la question, là, parce que oui, c'est des vieilles autos parfois un peu capricieuses qui vont te faire faux bond à un moment que tu n'imagines pas. Donc, de savoir que ce service-là de dépannage peut venir t'aider, ben, c'est toujours un peu rassurant, disons ça comme ça.
Jesse, j'aimerais ça justement que... bon, on sait que le cœur du CA, pour la plupart des gens, c'est l'assistance routière. Comment ça fonctionne un peu? Résume-moi un peu le fonctionnement ou le processus du réseau de remorqueurs, parce que je sais que le CA va desservir l'assistance routière de constructeurs automobiles, que vous allez avoir des groupes de remorqueurs associés au CA qui ne sont pas des employés comme tels. Comment ça marche exactement?
Bien, pour l'assistance routière, on a trois noyaux de patrouilleurs, un à Québec, un à Montréal, puis un à Gatineau. Ça, c'est des patrouilleurs qui sont des employés CA Québec. Puis on a deux centres de répartition, un à Montréal pour Montréal et l'ouest du Québec, puis un à Québec pour les autres régions. Donc, puis effectivement, c'est sûr que ces noyaux de patrouilleurs-là peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire. Donc là, on fait affaire avec ce qu'on appelle dans notre jargon des stations affiliées, mais autrement dit, c'est des entreprises de remorquage ou des garages, pardon, qui offrent le remorquage. Qui le font pour nous. Donc, selon des normes, des principes, selon une charte, évidemment, puis un protocole qui répond donc à toutes nos normes là, de service. Donc, ils vont assurer le service pour nous. Et donc, c'est transparent, ça, pour le membre, hein, parce que le membre, là, il fait 1-800, je suis en panne, évidemment. Là, je suis pas un bon ambassadeur parce que je connais pas le numéro par cœur.
On n'aura pas non plus le numéro affiché au bas de l'écran puisqu'on est à la radio.
Non, c'est ça. Donc, la personne qui appelle l'assistance routière de CA Québec, elle tombe, c'est une personne, elle est prise en charge par le centre de contact puis après par le service de répartition qui va envoyer son appel au bon endroit. Et c'est un patrouilleur qui va se présenter avec une remorqueuse, soit aux couleurs de CAA ou au moins avec le logo de CAA quelque part, et qui va faire donc selon les normes le service. Donc c'est sûr que les membres CAA sont servis partout au Québec, puis aussi à l'extérieur, parce que CAA, c'est l'Association canadienne des automobilistes, fait qu'il y a des clubs évidemment dans toutes les autres provinces, là.
Oui, OK, bon. Moi, je veux que tu me dises, bon, le dernier incident que j'ai eu, je conduisais une Mercedes, une très belle Mercedes AMG C43 familiale sur l'autoroute 15. J'ai frappé un violent nid de poule en plein milieu de l'autoroute.
T'as été malchanceux parce que des nids de poule, il n'y en a pas tant que ça.
Je
là.
Sais, mais toujours est-il que le flanc du pneu a carrément explosé, la jante a été endommagée. Évidemment, comme c'est comme il n'y a pas de pneus de secours dans cette voiture-là, j'ai pas eu d'autre choix que de me ranger, d'appeler l'assistance routière de Mercedes-Benz. Et c'est un remorqueur du CA qui s'est présenté. Alors ça aussi, ça m'a un peu surpris. Ça veut dire que vous couvrez quand même assez large.
Oui, en plus là, d'offrir le membership habituel de CA Québec, on participe comme les autres clubs canadiens. On participe à une entreprise qui s'appelle Experigo. Ça s'appelait Club Auto avant. Puis ça, c'est une filiale de la CAA nationale, là, de notre bureau national à Ottawa, qui est là pour offrir justement le service au nom des constructeurs. Donc, effectivement, Mercedes-Benz, puis il y a plusieurs autres constructeurs aussi. Qui font affaire avec, dans le fond, nos services. Donc, si vous appelez 1-800-HONDA, assistance routière, par exemple, ou Hyundai, c'est des gens de CA Québec qui vont se rendre sur les lieux. Là, j'ai dit Honda puis Hyundai. Faudrait vérifier si les deux en font bien partie, mais je pense bien que c'est le cas pour Hyundai. Mais de toute manière, on le fait pour plusieurs constructeurs.
Est-ce que si on est propriétaire d'une Daewoo, c'est couvert aussi?
Ben écoute, ça dépend. Est-ce que tu considères la Chevrolet Spark comme une Daewoo?
Non. Je parle d'une une Nubira, une Lanos là, ou une Leganza.
Si on appelle là au numéro, si on compose le numéro dans le coin du pare-brise, est-ce qu'on va avoir droit au service CAA?
Je pense que l'assistance routière de 3 ans, 65 km, est finie depuis longtemps sur ces voitures-là.
En fait, c'est pas juste l'assistance routière qui est finie.
Et, bon. Ouais. 2020, bon, on le disait en introduction, a été une année un peu particulière. Du point de vue du CAA, comment on a pu observer des changements dans les habitudes de conduite, peut-être des automobilistes, peut-être des changements dans les questions qui étaient posées, dans le volume d'appels? Comment la pandémie peut avoir impacté finalement le CAA?
En fait, c'est sûr que les gens se sont mis à conduire beaucoup moins d'un coup sec il y a environ un an. Donc on a eu beaucoup de questions par rapport à ce qu'il fallait faire avec un véhicule qu'on conduisait moins. Donc on sait qu'un véhicule qui roule pas, c'est pire pour lui que de faire beaucoup de kilométrage.
Ouais.
Vous avez des vieux véhicules. J'en ai un moi aussi qui vieillit tranquillement puis que j'utilise presque jamais. Mais qui couche dehors et tout ça, puis il aime pas ça, je peux vous le confirmer là.
Donc, il m'en parlait justement hier.
ben oui.
C'est ça.
Fait que justement, ben c'est ça, à ce moment-là, les gens savent pas trop quoi faire pour réduire l'incidence de ces dommages-là. Donc on a eu des questions sur les batteries qui se déchargeaient, donc comment faire pour les tenir à flot, comment faire pour s'assurer que les freins rouillent pas. Ça a pris beaucoup d'espace. Puis, tu sais, les trucs, c'est simple, hein. Faut faire rouler le véhicule. Une fois par semaine, on fait un tour, on va plus loin qu'à l'épicerie, là. On s'arrange pour aller faire un peu d'autoroute ou de route à 90 avec une bonne limite, là. Il faut
un chargeur intelligent pour la batterie, c'est toujours un must.
Exactement. Ben ouais. Très bonne suggestion. Puis aussi faire attention à l'utilisation du démarreur à distance parce que quand on utilise ça puis qu'il fait froid, on draine la batterie là pour un démarrage. Si elle s'éteint la voiture 10 minutes après puis qu'on réactionne le démarreur à distance, la batterie s'est pas rechargée. On y redemande encore beaucoup d'énergie. Donc quand on part le véhicule, faut aller rouler avec. Puis il faut freiner aussi, puis faut pas gêner là d'appuyer sa pédale pour enlever la fine couche de rouille qui pourrait s'être déposée sur les disques. Alors ça, on a eu des questions là-dessus. Peut-être qu'on a eu moins...
Sur la pression des pneus aussi, peut-être, à surveiller?
Tu m'ouvres tellement une belle porte, là, Germain. La pression des pneus, c'est essentiel.
Germain, ça paraît pas comme ça, mais on dirait qu'il est en train de passer une entrevue. Hein? Qui sait si un jour, c'est pas lui que j'appellerai au CAA Québec? On ne sait pas.
Sait-on jamais.
C'est ça.
Mais une fois par mois, on devrait vérifier la pression des pneus. Ça, c'est ce qu'on recommande, mais c'est encore plus important l'hiver parce que chaque fois que la température baisse de 6 degrés, on perd une livre de pression d'air dans nos pneus. Donc, ça peut aller assez vite. Si la dernière fois qu'on l'a vérifié, on était dans le redout du mois d'octobre puis il faisait 20 degrés.
C'est dommage que quand la température baisse de 6 degrés, on ne perde pas une livre, nous aussi.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il fait moins 15, fait que ça ne fera pas de mal.
Et ça, je me sentirais plus velte. Mais ça, c'est une autre histoire.
avec moins de programmes de lancement de véhicules, ça peut aider de ce côté-là.
Oui, ça, c'est sûr, effectivement. Évidemment, il y a le service conseil, tu en parlais. Les gens peuvent téléphoner là-bas pour avoir des conseils de toutes sortes sur les véhicules, pour aussi avoir une valeur approximative de leur véhicule d'occasion lorsqu'ils se mettent à magasiner pour acheter un nouveau véhicule.
Pour pas faire le saut quand on arrive en concession et que l'évaluateur nous donne 1 500 $ en échange pour notre véhicule.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, et permets-moi de... Et tu me diras si je suis dans le tort, c'est que cette année, les voitures d'occasion ont pris une valeur incroyable parce qu'il y a une pénurie de véhicules d'occasion sur le marché. Et évidemment, pas besoin de vous dire que les concessionnaires essaient encore de payer les voitures le même prix qu'on les payait l'année passée, mais les valeurs ont grimpé, là.
Exactement, les valeurs ont grimpé, puis nous, on le voit dans les outils qu'on consulte quand on évalue la valeur marchande pour les membres. Ça, c'est nos services conseil auto qui le font. C'est sûr que la valeur a monté. Il y a une rareté qui s'est créée. Et à un moment donné, les véhicules neufs, là, c'était plus compliqué, pardon, surtout au cœur du confinement, là. Les gens se sont aperçus que des contrats de location, ça pouvait avoir des. Ça pouvait être compliqué de
les prolonger,
Oui, soit de les prolonger ou de les. On sait qu'il y a tout le temps des frais quand on veut le céder ou quand on veut carrément s'en départir avant la fin. Donc là, à un moment donné, les gens se tournent vers d'autres options. Puis les véhicules d'occasion, c'est vrai que c'est une manne actuellement, là. Mais ça, ce que les gens sont moins portés à faire, le public, là, c'est justement d'essayer de vendre le véhicule eux-mêmes. C'est sûr que c'est plus de troubles. C'est sûr qu'il faut s'arranger que le véhicule soit présentable, en bonne condition. Il faut gérer les essais routiers. Puis là, en temps actuel, avec les restrictions sanitaires, c'est pas nécessairement facile. On n'a pas le goût que quelqu'un vienne essayer le véhicule. Mais c'est tout le temps là qu'on est capable de tirer le plus de notre véhicule.
Absolument.
En vendant soi-même. Puis ça, c'est à Québec qu'on peut donner la valeur marchande, la valeur que le concessionnaire va donner pour une reprise. Mais on peut aussi donner la valeur marchande pour un particulier qui essaye de vendre son véhicule. Puis c'est toujours là qu'on gagne le plus, là. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de travail à faire pour y arriver.
En début d'émission, Antoine et moi, on parlait d'un possible projet au fédéral pour éliminer finalement des voitures qui auraient plus de 12 ans et mettre sur la route des plus de véhicules neufs, histoire de stimuler un peu tout ça au nom de l'écologie et de l'empreinte, écologique, mais on se permet d'en douter raisonnablement. Du côté du CAA, est-ce que on a un point de vue à cet effet-là?
Ben nous à CAA Québec là, on est un peu de l'école que quand on a déjà un véhicule sur la route puis qui est encore y en a encore dans le ventre là, tu sais, s'il y a 150 000 km là qui est en bon état, on peut y en faire au moins autant. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus raisonnable de conserver un véhicule sur la route même s'il est à essence au lieu d'être électrifié par exemple, que de se diriger à toutes les 3-4 ans, justement on parlait de location, vers un véhicule neuf qui va avoir nécessité des ressources considérables pour le construire, même des modèles qui sont là depuis longtemps. Tu sais, ça prend des ressources. Donc, c'est le cas aussi, on le sait très bien, pour les véhicules électrifiés, même si on récupère, en termes d'empreinte écologique, à mesure qu'on sert du véhicule. Mais pour ça, il faut le garder longtemps. Donc, on boucle la boucle. Effectivement.
Ouais, il faut le garder longtemps, puis il faut rouler, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Il faut rouler. Exactement. C'est ça, c'est sûr et certain. Donc, pour ce qui est d'un programme de récupération des vieux modèles, c'est bon si on récupère des modèles de 10-12 ans qui ont vraiment, là, à un moment donné, peut-être passé le point de bascule où là, ça devient moins intéressant de le faire réparer. Puis encore là, ça dépend de l'état d'origine. On en voit, j'ai encore vu une Toyota Corolla 97 qui n'avait pas une tache de rouille la semaine passée sur l'autoroute 40 là, dans la région de Québec. T'sais. Donc, ça dure longtemps un véhicule si on y fait attention. Alors, ce qu'on met de l'avant ou ce qu'on aimerait mieux voir probablement qu'à CAA Québec, qu'un programme comme ça, c'est un programme d'inspection environnementale des véhicules.
Okay.
Évidemment, ça existe dans plusieurs juridictions, dans d'autres provinces, dans des États américains. Et ça coûte des sous, hein. Les inspections sont pas gratuites. Mais plutôt que de prendre l'argent public pour justement subventionner l'achat de véhicules neufs, parce que autrement dit, c'est ça qu'on veut faire avec un programme de mise à la casse, pourquoi on le prendrait pas pour financer une partie des inspections environnementales, financer peut-être un pourcentage des réparations pour remettre les véhicules aux normes? Et là, on conserve des véhicules dont la fabrication, puis l'empreinte de la fabrication, de la construction est déjà amortie. Et en plus, là, les gaz à effet de serre diminuent parce que le véhicule est remis en état. Donc, pour nous, ça, ce serait probablement plus logique, ça, c'est certain.
Faut juste pas demander à la SAC de gérer ça, parce que là, je pense que tu surestimes le pouvoir de ce qu'ils ont. Ils sont encore avec des lois désuètes de taxes à l'immatriculation qui sont complètement
dépassées. En fonction de la cylindrée, des véhicules de luxe.
Et puis, tu poses des questions à la SAC et t'es sans réponse, parce que personne n'est capable de dire qui a mis ça en place, cette loi-là. Alors, malheureusement...
Un beau casse-tête.
Il y a, il y a, il y a, y a plein de belles solutions comme ça qu'on pourrait évoquer, mais encore faut-il qu'il y ait des gens en position qui soient capables de mettre ça en application et de gérer.
Et qu'il y ait une volonté aussi.
C'est
là.
Ça. Exactement.
C'est une question de volonté. Le CAA, on peut s'imaginer que, bon, on en a parlé tout à l'heure là, brièvement de survoltage, donc et avec le virage vert que prend finalement l'automobile, comment le CAA finalement prend ce virage-là de son côté? Parce que, bon, exemple, un véhicule traditionnel, si on est en panne d'essence, ben le CAA peut arriver là avec quelques litres d'essence, puis ça va donner un coup de main. Mais dans le cas d'un véhicule électrique, est-ce qu'on a pensé à ça?
Bien, c'est sûr qu'on pense à ça. Puis justement, on est en train de développer là, en arrière-plan justement l'offre qu'on veut bonifier pour les propriétaires de véhicules électrifiés, qu'on veut tout concentrer ça pour que ce soit clair ce qu'ils sont capables d'avoir avec nous en étant membre de CAA Québec. Mais déjà, les propriétaires de véhicules électriques dans les régions de Montréal et de Québec ont accès à notre service de recharge mobile. Et ça, c'est une exclusivité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut se déplacer avec une Hyundai Ioniq spécialement préparée là, à cet effet. Là. Un propriétaire d'Ioniq ne peut pas aller dépanner son voisin. Ça ne marche pas non plus avec les véhicules de n'importe quelle marque. Mais nous, nos voitures sont préparées pour ça. Et on se déplace sur les lieux de la panne. Puis là, on branche les deux autos ensemble, puis on prend de l'énergie dans la batterie de notre Ioniq de recharge, tout en laissant au patrouilleur pour qu'il puisse s'en retourner, évidemment. Puis, puis on remplit, donc on va redonner un kilométrage suffisant à la personne qui est soit peut-être pas en panne, mais qui voit son autonomie baisser. Puis l'hiver, on a des surprises quand on est des fois qu'on n'est pas habitué. Donc, qui voit son autonomie baisser, puis là, la personne peut se rendre à une autre borne de recharge ou carrément chez elle pour brancher son véhicule. Donc ça, c'est un service qui est exclusif. Et les gens y ont accès. C'est une tranquillité d'esprit qu'on leur offre.
En même temps, j'imagine que les clients qui ont des véhicules électriques peuvent pas nécessairement abuser de ce service-là, parce que si tu habites en condo et tu décides de faire recharger ta voiture par le CAA à tous les jours...
Non, mais j'imagine que c'est comme le service de pour les voitures à essence, là, le service de base qu'on prend, ouais, 3 ou 4 dépannages pour l'année, puis après ça...
Ça fait partie, vous avez raison, là, ça fait partie des 4 services de base qui sont offerts.
Okay.
Donc, ça coûte pas plus cher pour ça. Puis, ben, les gens savent pas non plus que quand ils appellent le 1-800-MABA, la borne marche pas du circuit électrique ou de flow, donc le service à la clientèle, ben c'est CAA Québec qui répond. C'est nous qui assurons le service à la clientèle, qui sommes capables de guider les propriétaires qui se posent des questions devant les bornes ou qui ont effectivement parfois des problèmes avec le connecteur ou qui savent pas que il faut débarrer les portes pour le débrancher, par exemple, dans plusieurs modèles.
Okay.
Ben, c'est nous, des fois, c'est plus compliqué que ça, mais c'est nous qui répondons en première ligne à ces appels-là. Donc, on a de la connaissance pour les véhicules électriques, puis on la développe, on continue de le faire. Puis, évidemment, une personne qui reste en panne, je sais pas, moi, je vais dire, puis peut-être qu'il y en a une borne, mais je vais dire n'importe quoi, mais à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, là, dans le coin de Montmagny, puis qui a besoin de se rendre, puis qui a pas de borne, bien, on va le remorquer à la prochaine borne ou jusqu'à son domicile dans les limites du service là, de base de CAA ou du service plus, ou peu importe.
On Donc, salue les gens de moyen. Saint-François, de la rivière de quoi, t'as dit?
La rivière du Sud.
Bon, ben on les salue.
Ouais, donc oui, effectivement, les véhicules électriques, ça fait partie de l'avenir, la mobilité aussi. Puis on est en train de se pencher aussi sur les vélos électriques parce que c'est pas juste les autos. Évidemment, ici on parle à un public, puis moi j'en suis aussi, on est tous des amateurs d'automobiles à quatre roues, mais il y a d'autres choses aussi, puis il y a d'autres moyens de se déplacer qui sont électrifiés. Fait qu'on on est en train aussi d'explorer ces territoires-là.
En terminant, Jesse, je veux parler des écoles de conduite du CAA parce que actuellement, j'ai ma fille à la maison qui prend ses cours de conduite en ligne et quand j'écoute ce qu'elle apprend de par l'école de conduite où elle est inscrite, je suis sidéré de voir à quel point... Écoute, j'ai l'impression d'être en 1975. c'est pas des farces, là. C'est, sont pas là, là, c'est gênant comme programme. Je parle pas de d'une légère incompétence. Je parle
d'une mésadaptation.
Ah, de la... Complètement. Là, on n'est pas là, mais pas du tout. C'est épouvantable. Et moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas un programme qui a été mis à jour à ce niveau-là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une réglementation quelconque qui, au moins, permet d'adapter ça un temps soit peu. C'est totalement gênant. Là. C'est, ça n'a aucun bon sens. Puis moi, je peux vous dire que, OK, c'est obligatoire que ma fille passe son cours de conduite, mais une fois qu'elle aura le papier qu'elle a besoin en main, on efface et on recommence. Puis là, on va l'éduquer comme il faut. Ça n'a aucun bon sens ce qu'on enseigne, ou en fait ce qu'on n'enseigne pas, devrais-je dire. Alors, moi, je veux savoir où se situe le CAA par rapport à ça et quel est l'objectif.
Le CAA, qui a des écoles de conduite,
ben, c'est
là,
ça,
d'ailleurs.
Qui a 4 écoles de conduite, je crois, actuellement.
Oui, à CAA Québec, on a 4 écoles de conduite là, à Montréal, sur la rive sud de Montréal. Donc, nous, on a déjà eu un réseau d'écoles. On n'avait pas nos écoles à nous, mais on avait des écoles, on recommandait des écoles, un peu comme on le fait pour des garages puis des entreprises en habitation. Et on s'est retiré de ça parce que effectivement, on s'est rendu compte, bon gré, mal gré, là, que...
C'était inégal, là.
Très, très, très inégal selon les régions, selon les écoles, selon les réseaux. Donc, on s'est dit... Bon, on respecte, on sait qu'il y a des trous dans la formation, on sait qu'il y a des difficultés de recrutement, c'est pas, je pense, un métier qui est très, très payant non plus en général, donc c'est difficile. Des conditions sont difficiles pour les propriétaires d'école, puis pour bon. Mais en même temps, nous, on s'est dit, on a une expertise, on donne déjà des formations de conduite avancée pour l'hiver, pour l'éco-conduite, pour les flottes. Pour la police même, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait que c'est à Québec. Nous, on fait de la formation avec les futurs policiers. Donc,
il n'y a pas juste Bertrand qui donne des cours aux futurs policiers.
Oui, c'est ça.
Bien, Bertrand donne des cours avec nous pour ça. Bertrand, on est associé avec lui là, à certains niveaux. Là. Je ne vous dis pas qu'on est toujours ensemble dans tous nos projets, mais... Bertrand,
et on parle de Bertrand Godin, bien sûr.
Bertrand Godin, oui, c'est un associé de CA Québec à ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est... donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir nos propres écoles de conduite où on va s'assurer, effectivement, de mettre en place la formation la plus complète possible, la plus personnalisée possible. Et c'est ce qu'on fait là dans nos 4 écoles. Puis, on n'a pas pris la bouchée trop grosse. Hein, on s'est pas, on n'est pas rendu... On n'a pas investi toutes les régions du Québec avec nos écoles, justement parce que on voulait bien partir les choses, bien faire. Puis là, ben, ça fait maintenant plus de 5 ans que ces écoles-là sont ouvertes. Les commentaires qu'on reçoit sont positifs. Les gens semblent apprécier la formation qu'on leur donne. Puis, justement, le fait que c'est personnalisé, puis on s'arrange pour que ça dure toute l'année, pour avoir de la conduite l'hiver, puis... Les techniques de conduite sont importantes. Là, je pense que ça, tu fais référence un peu, Antoine. C'est pas juste d'apprendre la signalisation puis les règlements. Là, faut savoir s'asseoir dans l'auto puis la conduire. Puis on fait attention aussi au système de conduite, là, justement, d'assistance à la conduite.
Non, écoute, à la lumière de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment moi, ça me donne l'impression qu'on s'attend à ce que l'élève s'assoie derrière le volant d'une Tercel 1990.
Ouais.
Autrement dit, il n'y a pas de source de distraction. T'as 4 roues et un volant, puis il faut que tu apprennes à respecter les panneaux sur la route, mais tu sais même pas nécessairement pourquoi ils sont là. C'est surtout, garde, apprends à respecter ce qui est là, puis conduis ta voiture. Mais est-ce qu'on est conscient aujourd'hui que les téléphones sont branchés en Bluetooth, qu'il y a des écrans, qu'il y a toutes sortes d'informations sur les véhicules, qu'il y a des capteurs à gauche,
ben oui,
à droite.
Qu'il y a des trucs qui vont sonner, des alertes d'angle mort, des caméras de recul. Hein?
Tout ça, il n'y a rien de ça que j'ai vu passer dans toute la formation de ma fille jusqu'à maintenant qui a été mise à contribution. Alors, c'est vraiment quelque chose.
Ça devrait être important, ça devrait en faire partie, là. On en conduit tous les trois des véhicules différents d'une semaine à l'autre, puis même nous, des fois, on est parfois surpris, puis on a de la misère à s'y retrouver, même si on change à toutes les semaines. Donc, c'est important d'expliquer aux gens comment ça marche. Puis c'est quoi, par exemple, tu sais, juste de dire qu'un véhicule à traction intégrale, parce qu'on sait qu'il y en a tellement plus qu'avant sur les routes, ça va partir plus vite, mais ça freinera pas plus vite.
Hein? Non,
c'est ça. Donc, ça, c'est un truc de base, là, évidemment.
Des phénomènes de survirage, sous-virage.
Puis, tu sais, d'expliquer ça avec une boîte de Kleenex sur un bureau en bois, c'est pas génial, là.
Et surtout, ben, ça, et surtout à l'écran.
À l'écran, en plus, oui.
Mais, écoute, je pense qu'effectivement, de ce côté-là, il y a probablement des manques. Puis, dans nos formations, moi, je sais qu'on va plus loin que les principes de base. Donc, c'est aux gens de le constater puis de commenter. Mais ce que j'entends là, moi, c'est sûr que on va faire le lien pour s'assurer de notre côté aussi que ces nouveaux systèmes-là soient pris en considération, là.
Jesse, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Évidemment, on rappelle aux gens que vous pouvez vous abonner au CA Québec si ce n'est pas déjà fait. Et pas juste parce qu'il y a un service d'assistance routière. Vous pouvez sauver des dollars un peu partout. Il y a toutes sortes d'avantages. Alors, prenez le temps de consulter ça. Je pense que si parmi tous les abonnements qu'on peut avoir aujourd'hui, là, Amazon, tout ce que vous voudrez, là, ça, c'en est un qui est incontournable en ce qui me concerne.
Ben, merci pour l'occasion. C'est toujours un plaisir de vous parler, messieurs.
Puis tu pourras aller demander ta prime au travail à ton supérieur après l'entrevue.
Un grand merci, Jesse, pour ta générosité.
De rien.
Merci. Bonjour. Salut, Jesse. Bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Cette semaine, Antoine, tu voulais conclure l'émission en parlant d'une marque dont on parle pratiquement jamais ici à l'émission. La marque Jaguar qui est, on se demande quel avenir l'attend, là.
2000 ventes au Canada cette année, 2144 pour être exact. Et on a vendu 10 fois plus de Jaguars sur le marché américain cette année, donc autour de 21 000 Jaguars.
Pourtant, quand on regarde ça bêtement, c'est une marque qui offre des VUS, des véhicules électriques, des produits de luxe. Donc, quand on regarde ça de manière très, très, très rationnelle et de manière très froide, on comprend pas.
Bien, en fait, ce qui est ironique, c'est qu'on a vendu autant de Jaguar cette année aux États-Unis qu'on en a vendu en 1985, alors qu'on avait deux modèles hors de prix sur le marché.
Avec une sale réputation en plus, là.
Oui, mais à l'époque, je veux dire, je pense que la réputation de Jaguar aujourd'hui est aussi mauvaise en proportion que ce qu'elle l'était à l'époque en matière de fiabilité. Donc, c'était pas... tu sais, les gens qui voulaient acheter une XJS à l'époque achetaient une XJS. Mm-hmm. Mais Jaguar, pour moi, ça a toujours été... En termes d'image de marque, en termes de prestige, en termes de prestance, une marque qui était supérieure sur le plan hiérarchique dans le monde du luxe aux trois grandes marques allemandes que sont Audi, Mercedes et BMW, surtout dans les années 80-90. Là, évidemment, les choses ont évolué beaucoup.
Le passage avec Ford aussi, ça a changé la donne. Là.
Ça a changé la donne, c'est-à-dire qu'on a laissé Jaguar à la traîne trop longtemps. On s'en est débarrassé après. C'est Tata Motors qui a récupéré la marque et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. On a peut-être fait des erreurs stratégiques. Dans les années 2000, ça a été épouvantable. Des véhicules comme la X-Type, par exemple, qui était basé sur une Ford Contour. Très mauvaise idée. mais ce qui sauve pour l'instant les meubles un peu, c'est le F-Type. F-Pace, qui est le premier VUS de la marque. Ouais. Et ça se vend encore un peu à 1500 unités. Donc
ça reste modeste, là.
C'était 75% des ventes approximativement au Canada cette année pour Jaguar. Le deuxième véhicule le plus populaire étant le F-Type, qui est la voiture sport.
Qui devrait être une voiture de niche, là.
Comment expliquer que la version électrique I-Pace s'est vendue à 64 unités, que que le E-Pace, qui est le petit utilitaire de la marque, dans un marché qui est super populaire,
absolument.
265 unités.
C'est vraiment la grande déception, ça.
Absolument. Alors Jaguar s'en va carrément à la dérive et poursuit une carrière difficile pour moi dans l'ombre de Land Rover, qui est une marque qui... ce sont deux marques affiliées, là, JLR, qui appartiennent les deux à Tata Motors. Et pour votre gouverne, si vous ne sachez pas ce qu'est... si vous ne savez pas ce qu'est Tata Motors, dites-vous que c'est l'équivalent indien de ce qu'est Hyundai. On fabrique à peu près n'importe quoi. Des moissonneuses batteuses, des ordinateurs, des cargos, on fabrique à peu près n'importe quoi. Et on a une division automobile qui fabrique de très petites voitures pour le marché indien. On a mis la main sur Jaguar Land Rover. Et tu vois, Jaguar, cette année, abandonnait la berline XE, abandonnait la grande XJ, qui était en fait le flagship de cette marque-là depuis très longtemps.
Ouais. Donc, on a fait le ménage. On a même mis une croix sur le passé parce que, la XJ, c'était une voiture emblématique là, pour Jaguar, mais on n'a pas eu le choix de rationaliser un peu la gamme.
Oui, exactement. Sauf que quel est l'avenir d'une marque qui n'arrête pas de lancer des nouveaux modèles qui ne se vendent pas, exception faite du F-Pace et encore faudra le faire vieillir en beauté, ce véhicule-là, ce qui n'est pas évident dans un marché où la compétition est ultra féroce. Moi, je suis vraiment, vraiment inquiet de l'avenir de cette marque-là. Pas de Land Rover, on s'entend.
Ben non.
Mais si le seul produit financièrement pertinent pour l'entreprise qu'on retrouve chez Jaguar est un équivalent de ce qu'on retrouve chez Land Rover avec le Range Rover Velar, ben pourquoi continuer à offrir des Jaguars? Parce qu'on perd de l'argent, là, c'est évident.
J'allais dire, si on éliminait Jaguar et donc le F-Pace, je suis pas sûr que l'ensemble du groupe verrait ses ventes diminuer parce que les acheteurs pourraient être dirigés vers Land Rover, là, naturellement.
C'est d'autant plus difficile à comprendre qu'on a fait un virage électrique avec un produit qu'on a réussi. Le I-Pace, c'est loin d'être un mauvais véhicule électrique.
Et on n'a pas repris la formule chez Land Rover.
Non, et on n'a pas repris la formule.
Ce qui est assez curieux, ça aussi.
Mais c'est un produit vraiment convaincant, vraiment innovateur, mais les ventes ne sont pas là.
Non.
C'est vraiment difficile d'expliquer tout ça. Et même aux États-Unis, dans un marché où les voitures se vendent beaucoup plus, les berlines Jaguar n'ont pas trouvé preneur en 2020, mais pas du tout. Là. Ça ne s'est pas vendu. La XF, qui est encore la seule berline commercialisée par le constructeur, c'était à peine quelques milliers de ventes aux États-Unis. Il faut aussi mentionner qu'eux ont en plus une version familiale qu'on n'a pas chez nous. Mmh. Alors, ils ont une gamme encore plus complète. Où on s'en va avec Jaguar? Là, moi, je me suis posé la question cette semaine parce que il fut une époque où Jaguar me faisait rêver et c'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Là.
Non, et on parle souvent d'un avenir qu'on entrevoit assez peu glorieux pour Infiniti, mais pas loin derrière, il y a Jaguar, donc on n'aura pas le choix de surveiller ça.
En fait, Jaguar vendait moins de voitures qu'Infiniti cette année, ce qui est logique, là, en fait, c'est que ça pourrait être le contraire l'année prochaine si on se retrousse pas les manches, alors ça, c'est une autre histoire.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Antoine.
Plaisir.
Cube Radio.